Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La journaliste Shirin Abouaklé de la chaîne Al Jazeera a été tuée par balle ce matin alors qu'elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé et la chaîne Al Jazeera, l'armée israélienne est à l'origine de ces tirs. Cette demande de plusieurs organisations en France, dont la Fédération internationale pour les droits humains, elle demande au gouvernement le rapatriement des enfants français retenus dans les camps du nord-est de la Syrie. Le président d'honneur de la FIDH, maître Patrick Baudouin, sera l'un de nos invités. C'est aujourd'hui à Marrakech, le Maroc accueille la 9e édition ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, une coalition internationale créée en 2014 pour combattre le groupe État islamique. Ce sera vendredi prochain, le début de la 28e édition du Maghreb Orient des Livres, un événement jusqu'à dimanche à l'Hôtel de Ville à Paris, en partenariat avec Radio Orient, dans votre journal, le romancier Anouar Ben Malek. Le coup d'envoi ce mercredi des épreuves du baccalauréat, les épreuves de spécialité de la nouvelle version de l'examen. La journaliste Shirin Abouaklé de la chaîne Al Jazeera a été tuée par balle ce matin. C'est arrivé alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé et la chaîne Al Jazeera qui ont annoncé le décès, l'armée israélienne est à l'origine de ces tirs. Le président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, déplore selon ses mots le décès brutal de la grande journaliste de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abouaklé. Il parle d'un drame épouvantable qu'il condamne avec la plus grande fermeté. L'Union européenne dénonce la volonté des autorités israéliennes d'expulser pour des raisons militaires un millier de Palestiniens, des Palestiniens installés dans une région au sud de Hébron. L'établissement d'une zone de tir ne peut être considéré comme une raison militaire impérative pour transférer la population sous occupation. Un avertissement du porte-parole du chef de la diplomatie européenne. Il rappelle que l'expansion des colonies, les démolitions et les expulsions sont illégal au regard du droit international. Plusieurs organisations demandent le rapatriement des familles de djihadistes français détenus en Syrie. Une demande faite la semaine dernière par la défenseure des droits, Claire Hédon, demande appuyée notamment par la Fédération internationale des droits humains, entretien avec son président d'honneur, maître Patrick Baudouin, avocat au barreau de Paris.
Il y a à peu près encore 200 enfants français qui se trouvent donc retenus, détenus, on peut dire même dans ces camps du nord-est syrien contrôlés par les forces kurdes.
Vous choisissez le terme détention et non le terme rétention ?
Oui, parce que on peut dire que on est dans un domaine de non-droit. C'est une zone de non-droit absolu. Ces enfants qui ne sont évidemment pas responsables des choix de leurs parents, sont actuellement sans aucune justice qui puisse contrôler quoi que ce soit, sont détenus effectivement dans des conditions épouvantables, en même temps que leur mère est parfois seule, puisque certains ou certaines de ces petits garçons et de ces petites filles sont orphelins ou orphelines. Voilà, c'est une situation parfaitement scandaleuse. Il faut rappeler sans cesse que ces enfants sont de nationalité française et que donc la France a une obligation au regard de ses obligations internationales. Je pense en particulier à la Convention sur les droits de l'enfant à laquelle la France est évidemment partie, a le devoir de protéger la vie et la sécurité de ces enfants. Il n'y a pas d'autre solution pour cela que de les rapatrier en France.
Vous évoquez des conditions de détention épouvantables. Quelles sont ces conditions ?
Ces enfants sont détenus donc dans des camps qui sont dans une région avec déjà des extrêmes climatiques importants, c'est-à-dire très froid l'hiver, très chaud l'été, avec une absence de scolarisation, avec un manque de soins évident, une nourriture tout à fait sommaire. Donc, à tous les niveaux, ces enfants vivent dans des conditions qui ne sont nullement adaptées à leur développement, que ce soit physique ou que ce soit, j'ose même pas dire intellectuel, que ce soit sur le plan psychologique.
Ces enfants, vous le soulignez, qui ne sont bien entendu pas responsables des actions de leurs parents et notamment de leur père qui appartenait au groupe terroriste Daesh.
Absolument. Si vous voulez, rien ne peut justifier la position actuelle des autorités françaises et maintenue contre vents et marées alors que voilà maintenant près de 2 ans que il y a de nombreux rappels à l'ordre et même des condamnations qui peuvent émaner justement du comité des droits de l'enfant, le comité contre la torture est saisi également, il y a un recours qui a été déclaré recevable devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, bien sûr, toutes les organisations de défense des droits de l'homme, et récemment, comme vous le savez, la défenseur des droits en France a lancé une nouvelle fois l'alarme pour un rapatriement immédiat de ces enfants. Et malgré cela, la France résiste, alors que il est évident sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le plan humanitaire, que cette position est injustifiable. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plaider très longuement. Mais même si l'on se place sur un terrain beaucoup plus cynique, qui serait celui de la sécurité, il est beaucoup plus dangereux de laisser les enfants grandir dans ces camps dont ils sortiront de toute façon inévitablement un jour ou l'autre. On sait d'ailleurs que les Kurdes ne veulent ni ne peuvent garder ces camps ouverts. Ils l'ont fait savoir à de nombreuses reprises en demandant aux divers pays de rapatrier. Eh bien, ces enfants vont grandir, vont évidemment nourrir une haine absolue de la France et plus largement de l'Occident, et ils risquent de constituer un vivier d'avenir pour des djihadistes ou des terroristes qui ne cherchent qu'à les récupérer. Donc à ce niveau également, c'est tout à fait dangereux, et c'est pourquoi d'ailleurs de nombreux pays, européens en particulier, désormais, ont commencé ou continuent ou ont déjà rapatrié les enfants, je pense en particulier à plusieurs pays nordiques.
Et comment ces enfants sont-ils pris en charge dans ces pays, et notamment dans ces pays nordiques ?
Les enfants sont pris en charge d'une façon tout à fait adaptée. Les pays démocratiques, là-dessus, ont toutes les ressources et toutes les façons de procéder mises en place de longue date. Moi, je vais citer la France, puisqu'on parle de la France, et c'est encore plus vrai dans d'autres pays qui, peut-être, sont encore mieux outillés. Mais en France, lorsque ces enfants reviennent, il y a un double contrôle. S'ils reviennent, comme on le demande, avec leur mère, il y a le contrôle judiciaire, puisque presque toutes les femmes françaises qui sont actuellement retenues, détenues dans ces camps, sont, comme l'on dit, judiciarisées. C'est-à-dire qu'il y a des mandats d'arrêt contre ces femmes qui devront supporter les choix effectués de rejoindre avec leur mari, et il faudra déterminer bien sûr les responsabilités, de rejoindre les camps djihadistes. Et puis, les enfants sont pris en charge par des juges également, mais les juges des enfants, et puis tous les services d'aide sociale à l'enfance. Donc ils peuvent être, dans un premier temps généralement, placés dans des foyers d'accueil, et dans un deuxième temps, s'il y a de la famille susceptible de les accueillir, des grands-parents, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, ils peuvent rejoindre les membres de leur famille, et si les mères sont incarcérées, il y a des visites qui sont organisées pour ne pas rompre le lien entre l'enfant et la mère, car il faut souligner que actuellement ces enfants n'ont pour seule compagnie que les mères, ils vivent en vase totalement clos. Donc un des points de vue du gouvernement français, c'est de dire éventuellement on rapatrie les enfants, on n'a pas envie de rapatrier les mères, c'est absolument scandaleux, car ce serait maintenir les enfants dans un état de délabrement et de souffrance psychologique et morale absolument détestable. Il faut qu'ils puissent garder le lien avec la seule personne qui les relie à l'humanité aujourd'hui, qui est leur mère.
Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains, avocat au barreau de Paris. La lutte contre le groupe État islamique au cœur d'une réunion internationale à Marrakech, réunion qu'organisée par le Maroc et les États-Unis. La ville accueille 84 chefs de la diplomatie et représentants d'organisations, des responsables dont les pays ont rejoint en 2014 une coalition qui a mené une action conjointe et coordonnée contre l'organisation terroriste. Une réunion avec notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le coup d'envoi ce mercredi en France des épreuves du baccalauréat. Les lycéens passent les épreuves de spécialité de la nouvelle version de l'examen. Cela concerne plus de 520 000 lycéens depuis la réforme du bac en 2019. Les filières S, L et ES n'existent plus. Les élèves de terminale ont le même enseignement commun et choisissent deux spécialités. Le début vendredi prochain de la 28e édition du Maghreb Orient des Livres, un événement en partenariat avec Radio Orient, événement jusqu'à dimanche prochain à l'hôtel de ville de Paris. Le romancier Anouar Ben Malek, qui sera présent dès vendredi pour son dernier ouvrage, L'amour au temps des scélérats, édité par Emmanuel Colas, entretien avec Anouar Ben Malek.
J'y vais pour deux raisons essentielles. D'abord, la première, parce que c'est un salon des livres. Je veux dire, comme les autres salons des livres que je fais, on rencontre des lecteurs, on discute, on dédicace, etc. Mais la seconde raison est peut-être la plus importante d'ailleurs, c'est parce que c'est le rendez-vous, c'est un rendez-vous amical, où je retrouve des amis à moi. Ce salon, c'est un peu comme une espèce de salon de tout ce qui s'intéresse au monde arabe, au Maghreb. Et il est donc très particulier dans le calendrier des salons, en tout cas pour moi. J'y vais surtout pour, j'allais dire, les heures où je ne suis pas de service, c'est-à-dire où je ne signe pas, où je ne donne pas une interview, etc. Pour aller à la café, discuter avec des écrivains amis, des gens que je n'ai pas vus depuis des années, etc. C'est d'abord pour son atmosphère chaleureuse que j'y vais.
Vous êtes l'auteur de « L'amour au temps des scélérats », édité par Emmanuel Colas. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire part de la genèse de « L'amour au temps des scélérats » ?
C'est en fait un livre qui m'a pris plusieurs années. C'est des années de remords, d'abandon. Au départ, voilà, pour vous dire la distance entre la décision de départ et le roman à l'arrivée, j'ai d'abord voulu écrire un livre sur les Indiens d'Amérique. Et puis avec le temps, avec l'abandon de ce projet, etc., j'ai écrit un livre sur la Syrie, mais pas la Syrie en tant qu'entité politique. C'est, pour moi, la Syrie, c'est un symbole d'un endroit outragé par l'intolérance religieuse, la guerre perpétuelle, la tyrannie meurtrière. C'est-à-dire que c'est la Syrie de maintenant, c'est aussi... l'Allemagne des années 40, c'est aussi tous ces endroits-là où l'homme n'a plus eu de valeur, où les gens ordinaires ont beaucoup souffert sans que le reste du monde s'en émeuve beaucoup. Donc, c'est la Syrie, oui, d'un côté, mais c'est aussi n'importe quel endroit du monde où les gens souffrent, etc. Mais ce n'est pas... c'est surtout un livre... d'histoire d'amour, voilà. J'ai écrit des histoires d'amour de gens ordinaires pris dans des contextes extraordinaires. Et ce contexte, il va de l'époque de Sumer, où un de mes personnages principaux va donc commencer à agir, jusqu'à maintenant, la Syrie... de Assad et de Daesh et de toutes les puissances qui s'affrontent en fait sur le dos du peuple syrien.
L'amour mêlé à la barbarie ?
Oui, en montrant que malgré tout, ça vaut la peine de vivre. C'est ce qui rachète, j'allais dire, pour utiliser un mot trivial, c'est ce qui achète la saloperie de la guerre perpétuelle. Et puis de cette tyrannie qui est maintenant le lot commun de tous les pays, de ce vaste ensemble qu'on appelle rapidement arabo-berbère. Voilà, c'est j'ai aussi voulu écrire sur la fascination morbide que les croyants envers ceux qui sont prêts à assassiner leurs proches, même leurs fils, parce que ils assimilent ça à l'obéissance, à une puissance suprême. Cette justification, tous les fanatiques de toutes les époques l'ont utilisée pour expliquer leurs propres crimes. Par exemple, Daesh, les gens de Daesh pouvaient exécuter leurs proches en disant qu'ils obéissaient à Dieu. Ça a été un des ressorts essentiels du livre. Mais j'ai aussi voulu montrer dans ce livre que malgré tout, il y avait des choses qui pouvaient nous sauver de cette barbarie, au moins momentanément. La puissance de l'amour, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi la puissance de l'art. Par exemple, un de mes personnages, une apprentie artiste, rêve de ressembler à Asmahan. Et Tammuz, ce personnage, à la fois, c'est diable, mais pas diable, etc., l'y aide. Et je voulais montrer que cet endroit d'immonde n'est pas seulement le désespoir absolu. Il l'est en partie, mais il y a aussi l'illumination de l'art, de l'amour, de toutes sortes d'amour. L'amour, par exemple, d'une femme. Ici, dans Mali, c'est une femme yézidi. Les yézidis dont on a si peu parlé dans le monde arabe. Mais vraiment si peu, ou quasiment pas, d'ailleurs. Et l'amour de cette femme yézidi pour ses enfants. Mais aussi, par exemple, parce que les enfants vont être arrachés par Daesh, l'amour fraternel entre les enfants qui vont faire des choses extraordinaires pour arriver à se sauver l'un l'autre. Voilà, tout ça, j'ai eu le cœur, en fait, plein de chagrin en écrivant ce livre, mais j'ai aussi eu des moments de bonheur. Et je voudrais qu'on n'oublie pas aussi facilement les criminels qui ont fait ça. Une guerre en chasse l'autre, maintenant l'Ukraine a totalement oblitéré ce qui se passe en Syrie, etc. C'est triste pour la Syrie, c'est triste aussi pour l'Ukraine d'ailleurs, mais c'est triste aussi comme dans le monde arabe, on arrive facilement, aussi facilement à oublier ce qui se passe dans le monde arabe. Cette capacité d'amnésie, pour moi, est l'un des principaux problèmes de cette région-là.
Le romancier Anouar Ben Malek, son dernier roman, L'amour au temps des scélérats, édité par Emmanuel Colas. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Il est midi 16, à midi 30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal, à l'invité de pluriel à 19h et 23h, Emam Siafa, adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris en charge des sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques et candidat aux législatives dans la 17e circonscription de Paris. À 19h15 et 23h15, Loïc Barrière recevra Roxane Lundy, conseillère municipale de Beauvais, membre de la direction nationale de Génération, candidate de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale aux législatives. Très beau début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.